La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la mer et la terre et les sources d'eau. Et un autre ange, un second ange, suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sous son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. »
Je ne connais pas toutes les personnes qui sont ici présentes dans cette salle ce matin. Mais j'essaye d'imaginer chacun arrivant ici de la rue, entrant dans ce bâtiment. Si vous avez été attentif, vous avez lu sur le bâtiment, sur les briques, chapelle adventiste. Si avant même d'arriver aux escaliers pour voir cette inscription, vous avez regardé le bâtiment d'un peu plus loin, vous avez dû voir au-dessus de cette plateforme qui surplombe l'entrée, un grand texte qui est là sur fond vert et qui dit « Église adventiste du septième jour ». Vous êtes entré dans une église adventiste du septième jour. Alors, je suppose qu'un bon nombre d'entre vous, vous êtes habitués à entrer ici. Ça fait partie de votre vie régulière. Vous êtes là toutes les semaines, le sabbat, et peut-être parce que vous avez des responsabilités au sein de cette église, vous y venez encore plus souvent. Il se peut que d'autres parmi vous soient des visiteurs et n'aient accompli cette entrée dans ce bâtiment que quelques fois. Peut-être même y en a-t-il ce matin qui n'ont fait cela qu'une seule fois aujourd'hui, pour la première fois dans leur vie. Qu'est-ce que c'est qu'une église adventiste du septième jour? Pourquoi êtes-vous venu dans ce bâtiment aujourd'hui, un samedi matin? Qu'est-ce qui justifie notre présence aux uns et aux autres en ces lieux, en ce moment? J'aimerais tenter de vous expliquer ça, mais avant je vais demander que l'on lise quelque chose d'autre que vous avez vu en entrant dans cette pièce. Il y a là, sur ma droite, à votre gauche, un panneau, une inscription qui tente de décrire quelle est la vision que les membres réguliers de cette église de Damary ont décidé d'adopter pour ces quelques années qui sont là devant nous. Et je vais demander qu'on lise la partie qui est à gauche, celle qui est la plus proche des fenêtres.
Oui, et désirant ardemment le retour de Jésus, nous, communauté adventiste de Damary-les-Lys, nous voulons ensemble, unis et formés, nous ouvrir aux autres et à leurs besoins, comme témoins de notre foi et de notre nouvelle de notre merveilleuse espérance.
Merci beaucoup. Vous remarquez que la communauté de ceux qui participent régulièrement ici, qui sont membres de cette église, dit, se présente comme la communauté adventiste de Damary-les-Lys. Qu'est-ce que c'est donc qu'une telle communauté adventiste? La première chose que je dirais, c'est que c'est une communauté chrétienne. C'est une communauté qui appartient à cette religion que l'on appelle le christianisme. Cette religion n'existe que parce qu'il y a eu dans l'histoire un personnage qui s'appelle Jésus, qui a vécu il y a près de 2000 ans dans un territoire qui aujourd'hui est occupé par Israël, mais aussi par la Jordanie, par une partie de ces territoires que l'on appelle palestiniens, et qui sont un des endroits les plus chauds de la planète, non pas tellement du point de vue climatique, encore que, mais du point de vue politique et des tensions qui peuvent exister entre les êtres humains. Jésus, c'est parce qu'il y a eu ce personnage qu'il y a des communautés adventistes, des communautés chrétiennes aussi. Jésus est un personnage qu'on ne peut pas comparer aux autres. Il y a d'autres personnages qui ont émerveillé les êtres humains. Parmi les plus récents, un a fait beaucoup parler de lui, il s'appelle Nelson Mandela, et beaucoup sont très fiers d'avoir pu apprécier ce que cet homme a pu faire pour l'humanité contemporaine. D'autres citent souvent un personnage comme le Mahatma Gandhi, qui, plus tôt, dans le siècle précédent, a eu aussi une vie absolument remarquable. Mais Jésus est absolument incomparable face à ces personnages-là. Le personnage de Jésus est à l'origine de cette religion qu'on appelle le christianisme parce qu'il a dit des choses très simples, comme par exemple, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. » C'est-à-dire que connaître Dieu, qui est peut-être une des curiosités philosophiques les plus importantes parmi l'être humain, est quelque chose qui est extrêmement complexe, difficile. Et on peut se battre sur les idées que nous avons à propos de Dieu s'il n'y a pas de révélation de la part de ce Dieu. Et le christianisme, c'est la religion qui croit que Jésus est Dieu qui se manifeste parmi les hommes. Et cette foi-là est quelque chose d'absolument essentiel. Croire que Dieu existe, c'est une chose. Mais croire que Dieu est le mieux représenté et le plus compréhensible, le mieux accessible pour les êtres humains que nous sommes par la personne de Jésus, par ce que Jésus a fait, dit, enseigné, par ce qu'il a vécu. Voilà ce qui fait le christianisme et ce qui doit faire que l'Église adventiste est une Église chrétienne. Sans Jésus, pas de christianisme, pas d'adventisme. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est que l'Église adventiste est une Église protestante. Oh, peut-être que ça ne plaît pas à certains, mais c'est une réalité. Et une réalité que je résumerai de la façon la plus simple. L'apôtre Paul a écrit « Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi ». Et si au cours des siècles, le christianisme a souvent perdu ce message de la grâce. Les réformateurs du XVIe siècle, ceux dont on a célébré le 500e anniversaire l'année dernière, ont rappelé ça avec force, avec puissance. Et l'Église adventiste s'inscrit dans l'héritage de cette proclamation de la grâce sur laquelle l'apôtre Paul avait tant insisté et qui est le message de Jésus. La grâce, qu'est-ce que c'est ? C'est la conscience que nous vivons dans un monde imparfait, dans lequel il y a beaucoup de méchanceté, de mal qui se commet, de souffrance qui est endurée, qui est infligée, et que nous portons une partie de la responsabilité de ce mal et de toutes ses conséquences. Nous avons donc besoin d'être sauvés de notre état qui est mauvais et qui contribue à cette misère si répandue. Et pour cela, il n'y a pas 36 000 solutions. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul nom qui était donné parmi les hommes, par lesquels nous pouvions être sauvés, et c'est le nom de Jésus. À Jésus est attachée cette grâce que Dieu donne, ce pardon qu'il accorde gratuitement, que l'on ne peut pas payer, que personne d'entre nous, quand il a reçu, est capable de rembourser. C'est un cadeau totalement gratuit. C'est la grâce. C'est vrai que l'apôtre Paul nous dit « c'est la grâce acceptée par le moyen de la foi ». Mais la foi ne produira jamais le pardon. La foi n'est qu'une main tendue qu'il accepte, qu'il accueille comme un cadeau que l'on reçoit de Dieu. Et quand je dis que l'Église adventiste est une Église protestante, c'est simplement pour dire cela avec force, de façon compréhensible pour nos contemporains. Sans la grâce de Dieu, nous n'avons pas notre place ici, ni les uns, ni les autres. Parce que nous en avons tous besoin, parce que tous nous sommes là, devant Dieu, inaptes, indignes, incapables, sans aucun mérite, sans aucun droit au salut, mais simplement comme des petits-enfants qui reçoivent un cadeau gratuit qui les réjouit. La troisième chose que j'aimerais dire à propos de l'Église adventiste, et là aussi je vais employer un terme qui pourrait choquer certains d'entre vous, mais tant pis, c'est des fois en face de choc que nous pouvons réfléchir sérieusement. L'Église adventiste proclame ce que j'appelle un humanisme, c'est-à-dire une manière de considérer que les êtres humains doivent être aimés, même s'ils sont mauvais, même s'ils sont imparfaits, et que la vie des êtres humains, ici et maintenant, est importante, que le salut que Dieu nous offre, certes, est une magnifique espérance pour la vie future, mais elle doit absolument, cette espérance, avoir un impact sur notre vie ici et maintenant, aujourd'hui comme demain, comme hier. Et dans l'adventisme, ce que j'ai trouvé, c'est cette implication très concrète de toutes les dimensions de la vie. On dit parfois que les adventistes sont des gens qui ne mangent pas de cochon le samedi et qui ne boivent pas de vin le samedi, mais les autres jours aussi, je vous rassure. Pourquoi est-ce que les adventistes parlent de nourriture ? Pourquoi est-ce que les adventistes parlent de boissons ? Pourquoi est-ce que les adventistes construisent des écoles comme il y en a une juste derrière moi ? Pourquoi est-ce que les adventistes construisent des hôpitaux ? Pourquoi est-ce que les adventistes ont des facultés de médecine, des écoles pour former des ingénieurs, des gens compétents dans tous les domaines de la vie ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans l'Église adventiste, on considère que le salut que Dieu offre doit avoir un impact sur toutes les dimensions de la vie et de la personne humaine. Et donc que quand j'entre en relation avec le Dieu de la Bible qui s'est manifesté en Jésus-Christ et qui m'offre sa grâce, cette grâce m'invite à vivre d'une certaine façon. Et cette façon concerne toutes les dimensions de ma vie. Et je me réjouis d'appartenir à une église qui se préoccupe de ma santé et qui me permet de servir l'humanité dans ses besoins de santé. Je me réjouis d'être dans une église qui s'intéresse à mon mûrissement, à ce que j'apprenne, que je grandisse, que je connaisse, que je sois capable de comprendre le plus de choses possible et de cette façon d'être utile le mieux possible autour de moi. Et j'apprécie cela comme un cadeau extraordinaire. Je suis dans une église qui va valoriser les arts, où on va jouer de la musique, où on va peindre, où on va faire tout un tas de choses qui sont là pour dire que nous sommes là comme serviteurs d'un Dieu qui n'aime pas simplement les choses utiles, mais qui a créé ces vanités qu'on appelle les fleurs. Oh, je dis vanité simplement parce qu'elles sont passagères. Ce que disent bien des textes de l'Écriture, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui demain sera jetée au feu, dit Jésus. Pourquoi Dieu fait-il ça? Pourquoi Dieu fait-il des défilés de mode au moment où les arbres fleurissent? Pourquoi Dieu fait-il des choses aussi belles que celles que la nature peut révéler? Pourquoi donc? Parce qu'il veut valoriser toutes nos caractéristiques, toutes nos qualités, toutes nos compétences. Et il y a là, dans ce message adventiste qui s'intéresse à tout, aux arts comme aux techniques, à la nourriture comme au sport, à la musique comme à la danse, et à tout ce qui peut valoriser l'être humain et montrer qu'il grandit, qu'il apprend, qu'il est capable de servir dans un domaine comme dans un autre. Voilà quelque chose qui est magnifique et qui fait que l'adventisme est quelque chose de bénéfique qui nous réjouit et qui nous fait grandir. Bien sûr, il y a quelque chose d'autre qui est magnifique dans cet aspect humain. Je vous l'ai dit, ce qui est important dans l'humanisme que nous enseigne l'adventiste, c'est que nous apprenions à nous aimer les uns les autres. La semaine dernière, j'étais encore à l'autre bout du monde, enseignant à mes collègues pasteurs de Polynésie française. Et je vous assure que c'est quelque chose d'extrêmement touchant, d'extrêmement frappant, d'appartenir à une famille qui, même si vous n'en connaissez pas les individus particuliers, vous donne cette certitude qu'elle est votre famille, que vous êtes adopté dans cette famille, que vous êtes le bienvenu, qu'on vous accueille, mais de façon grandiose, de façon qui est extrêmement enrichissante et magnifique. Quand je rencontre là-bas, à l'autre bout du monde, des touristes qui ont payé des fortunes pour faire des voyages organisés, ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu là-bas. Ils n'ont pas été accueillis dans la maison. Ils n'ont pas mangé des plats préparés avec beaucoup d'amour et de fraternité. Ils n'ont pas vécu ce qu'on m'a fait vivre en m'accompagnant sur le chemin de l'histoire de ces nations et de ce qu'elles ont vécu, en me racontant tout ce qu'elles ont fait pour essayer de créer des solidarités entre les tribus qui ont peuplé ces îles depuis le XIIe, XIIIe, XIVe siècle. C'est extraordinaire d'avoir des frères et des sœurs, des vrais, que vous n'avez jamais rencontrés, qui parlent une autre langue et qui habitent aux antipodes de là où vous êtes. Cette famille qui se veut solidaire, qui veut s'engager sur tous les terrains. Et tout à l'heure, vous l'avez chanté, que mes mains à ton service s'offrent, que mes pieds ne se lassent pas, que j'assois généreux, que mon argent et mon or contribuent à aider ceux qui ont besoin. Tout ça, c'est la réalité de cette famille. C'est ce à quoi nous sommes invités. On ne peut pas être adventiste sans participer, comme nous avons été invités à le faire tout à l'heure, à la détresse d'une famille, au malheur d'une population ici ou là, parce que si on ne le fait pas, on rêve peut-être d'un beau pays dans l'au-delà, mais ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur nous a promis en nous disant que la chose qui demeure pour toujours, c'est l'amour ou la charité, comme le dit l'apôtre Paul dans ce merveilleux poème de 1 Corinthiens 13 sur l'amour concret, réel, pas juste des mots ou des smileys sur des messages. mais une réalité bien concrète. Alors oui, je suis heureux d'appartenir à cette famille et reconnaissant d'y avoir été accueilli. Et puis, vous allez me dire, mais j'ai peut-être oublié l'essentiel. Le texte que nous avons lu est un texte qui est dans le livre de l'Apocalypse, un livre qui paraît mystérieux à beaucoup. Mais c'est le texte que l'Église adventiste a considéré comme représentant sa mission. Un texte qui dit que nous sommes dans les derniers temps, que l'heure où le grand Dieu, qui connaît tout, même ce qui est au plus profond de nos cœurs, va juger avec sagesse, avec justice et avec beaucoup d'amour. Mais que c'est un temps solennel et que dans ce temps-là, nous avons une mission à remplir pour rassembler un peuple qui soit prêt à l'accueillir, un peuple qui vive cet esprit de famille et de solidarité profonde. Alors c'est vrai, je suis adventiste parce qu'il y a cet espoir très fort du prochain retour de Jésus et de l'arrivée de son royaume. Mais je suis adventiste parce que l'adventisme me donne une conception de l'histoire, avec un début où Dieu a créé, inventé ce monde et cet univers, avec ses beautés qui vont être par exemple mises en valeur tout ce week-end qui est la nuit des étoiles, où vous pouvez admirer ce ciel, et je peux vous dire qu'il est beau quand on regarde le ciel, par une nuit bien sombre, sans nuages, dans une petite île de l'autre bout du monde, où vous voyez la croix du sud, où vous voyez des étoiles que vous n'avez jamais vues ici dans l'hémisphère nord. C'est une merveille, c'est extraordinaire. Mais le Dieu qui a créé tout ça, c'est le Dieu qui a prévu un début et une fin. C'est le Dieu qui donne un sens à l'histoire qu'on peut représenter comme une flèche qui va dans une direction, qui nous aide à comprendre d'où nous venons et où nous allons. Et je suis adventiste parce que le Seigneur a donné un sens à mon histoire personnelle dans cette grande histoire des hommes qui va bientôt se terminer par l'ouverture d'une nouvelle histoire extraordinaire et merveilleuse, d'où le mal ne sera plus, où il n'y aura plus que bonté, amour, fraternité, et où, à cause de cela, la vie pourra durer et durer éternellement. Alors voilà quelques-unes des raisons qui vous permettent de comprendre ce que c'est qu'un adventiste du septième jour. Bien sûr, on pourrait ajouter et ajouter encore un certain nombre de choses. Mais nous sommes du septième jour parce qu'aujourd'hui c'est samedi, le septième jour de la semaine tel que la Bible nous l'enseigne. Et que ce samedi, lorsque nous nous réunissons, nous disons à Dieu, c'est toi qui choisis le moment de nos rencontres, ce n'est pas nous qui les fixons. Ou nous disons à ce Dieu, tu nous as donné un jour aujourd'hui, chaque semaine, pour nous faire goûter ton royaume qui vient et pour que, au moins ce jour-là, nous nous séparions de toutes nos préoccupations ordinaires pour vivre comme on vivra dans le royaume des cieux. Et si c'est cela que nous vivons chaque sabbat, alors nous serons de véritables adventistes. Ceux que Dieu aime, qui ne sont pas simplement des gens qui attendent, mais qui sont des gens qui commencent à vivre dès maintenant. Car le Seigneur a dit, celui qui vit en moi a la vie éternelle. Il l'a déjà et c'est maintenant qu'il faut commencer à la vivre. Et c'est ce à quoi j'aimerais vous inviter au nom du Seigneur Jésus. Amen.